la communauté tzigane était au courant que j'étais retrouvée. On avait dit, on fait très attention. On était partis qu'à trois avec Stéphanie, mon mari et moi. Et on est partis avec la voiture de Stéphanie. Comme ça, ils ne voyaient pas de quel milieu on était. Enfin, voilà. Bon. Alors, j'ai mis mes conditions à mon frère. Tu sais, je veux te voir toi. Je veux voir ma famille, mais personne d'autre. Je ne veux pas qu'il y ait trop de tziganes parce que moi, j'ai peur. Moi, je suis terrorisée. Je ne vous connais pas, je ne sais pas. Alors, il me dit, bah oui, je vais tout faire pour. Sauf que le patriarche avait retrouvé sa sœur. Je me doutais que ça allait être compliqué. Donc, me voilà arrivée, il y a au début que ma famille. Donc, je les vois tous en randonnion, dont ma mère. Elle m'a prise dans ses bras. Moi, je n'ai même pas pleuré, elle non plus. On s'est prise dans les bras l'une de l'autre. Tout le monde nous regardait en se demandant comment on allait réagir. Bon, assez froidement, finalement, l'une comme l'autre. On est bien pareil pour ça.
Rosa, l'enfant perdu de la famille Kreutzer. Un documentaire de Florence Quille, réalisé par Laure-Hélène Planchet. Second épisode, retrouvailles en terre tzigane.
Donc les frères qui commencent à dire, bon allez, venez. Alors donc là, je ne savais pas dès le départ, séparation des hommes, séparation des femmes.
Françoise.
Donc me voilà séparée, ma pauvre petite chérie, deux filles, la voilà partie avec les femmes. Je les perds de vue et ça, j'avais le cœur qui battait. Je dis, pourvu qu'elles réagissent bien. Moi, j'étais du côté des hommes avec ma mère. Et puis tous les hommes, dont mon frère patriarche et d'autres debout, on était tous en randonnion, ma mère là. Puis je la regardais, mais j'avais rapporté des photos de ma mère adoptive. Elle a commencé à me poser plein de questions, elle m'a fait un énorme cadeau. Puis d'un seul coup, je me suis sentie bien. Je ne sais pas pourquoi, j'étais plus du tout stressée, et j'arrivais plus à partir, j'étais là. Puis ma mère qui parle à mon frère, le patriarche, et elle lui dit un truc. Il parle en romanesque, je ne savais pas ce que c'était. Et il me dit, ta mère demande si tu n'es pas venue que par curiosité, mais si tu allais revenir et continuer à nous voir. Ah bah je dis, évidemment, j'ai pas fait tout ça pour vous voir qu'une seule fois, et tu peux la rassurer. Puis je lui ai dit à elle, parce qu'elle comprenait quand même le français, j'ai dit, bien sûr que je reviendrai te voir, et maintenant que je vous ai retrouvé, je vous abandonne plus, je repars plus, et je viendrai vous voir, il n'y a pas de problème. Puis mon mari me dit, bon bah viens, on va quand même y aller, mais moi j'arrivais plus à partir, quoi. J'étais trop bien, j'étais dans mon milieu. Et là, quand on sort, il y avait au moins une centaine de voitures. Donc quand je suis sortie, j'ai dit, dis donc, tu m'avais dit qu'il n'y aurait personne. Il m'a dit, oui, mais je suis patriarche. Le patriarche a retrouvé sa sœur. C'est un événement national pour nous.
Stéphanie.
Déjà, ils nous ont tous accueillis sur le perron. Ils étaient hyper nombreux. Donc ils nous ont accueillis la première fois comme si on les avait toujours connus, alors qu'en fait, on ne les connaissait pas, quoi. Et ça, c'était bien. Ils ont été vraiment gentils. Il y avait une espèce de chaleur... Et du coup, ça a fait tomber, en fait, toutes les craintes qu'on avait. Je me souviens plus de tout le monde. Mais déjà, j'ai vu arriver deux petits-enfants qui ressemblaient à mes enfants. Mais alors là, c'était incroyable. Surtout la petite fille, elle avait des yeux en amande, un peu comme ma fille. Et ma fille, elle a des yeux un peu particuliers que je retrouvais pas dans ma famille. Et quand cette petite fille, elle est arrivée, Venetia, je me suis dit, oh, on dirait mes enfants. C'était incroyable. Et ça, ça m'a fait bizarre de voir une reconnaissance physique avec des gens que je n'avais jamais vus.
Je vais avoir la vingtaine, je pense, hein, ou peut-être un peu plus quand même.
Thomas.
Je me souviens bien, alors, il y avait énormément de monde, c'était impressionnant. Ce jour-là, j'avais eu un peu d'appréhension, parce que bah, voilà, là, on se retrouvait vraiment au milieu de tous ces gens qu'on ne connaissait pas. Donc j'étais plus impressionné qu'autre chose, quoi. Il y a eu quand même beaucoup d'échanges. C'est des gens qui sont très vrais dans leur manière d'être, dans leurs relations. Puis on sentait que de leur côté, il leur manquait quelqu'un, quoi, en fait. Une partie de la famille, donc j'ai très vite senti aussi qu'on était important pour eux, quoi.
Lors de ces retrouvailles, Françoise apprend enfin les circonstances de sa naissance et de son placement en pouponnière. C'était l'hiver 51, dans la nuit du 13 décembre.
À 1h du matin, je suis née. Mon père n'était pas là, parce que les hommes, faut le savoir, ne sont jamais là aux accouchements de leur femme. Donc elle devait être toute seule.
Secret de l'identité des parents ? Non, en ce qui concerne la mère. Absence de filiation paternelle. Fratrie, Kreutzer, Roger, Gitan.
Mais au bout de 8 jours, elle a dit qu'elle partait sans moi. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas m'élever. Et elle a expliqué dans son français approximatif qu'elle était malheureuse, qu'elle ne pouvait pas me prendre et qu'elle cherchait une nourrice.
Circonstances de l'admission ? Motif de la prise en charge. À sa sortie de la maternité le 20 décembre 1951, La mère demande que sa petite-fille soit remise temporairement dans le service de l'assistance à l'enfance de la Seine, afin de disposer de suffisamment de temps pour trouver une nourrice.
Alors, il y a eu quand même un élément important, c'est que pendant les 8 premiers jours, on a été à deux à la maternité, elle m'a nourrie. Ça prouve quand même qu'elle ne voulait pas que je meure. Elle m'a nourrie, donc il y a quand même eu quelque chose, certainement, au départ. Et elle a signé en disant qu'elle partait, et j'ai su après qu'elle a dit officiellement qu'elle cherchait une nourrice et tout ça, mais en fait qu'elle était misérable. Bon.
Sous direction de l'assistance à l'enfance, service des enfants secourus, 20 décembre 1951, renseignement. Mère avec l'enfant, sortie de maternité ce jour, sollicite admission au dépôt. A un autre enfant au domicile, qui est malade, gardé par une personne étrangère. Veut revenir chez elle au plus vite. Mère paraît très fatiguée, ne s'exprime pas très bien.
Mais, pour autant, elle ne m'a pas abandonnée. Donc, au bout de 8 jours, je suis partie dans une pouponnière, dans la région parisienne, à Antony. Donc là, elle savait où j'étais. Donc, pendant 5 mois, elle est venue me voir, ça c'est certain. Et elle a fait une demande auprès de la science sociale, parce que la science sociale ne voulait pas qu'elle me reprenne, donc c'était malsain pour moi. Donc elle a fait 2 demandes.
À la suite d'une enquête réalisée le 27 décembre 1951, il ressort que la mère, délaissée par son amie, est hébergée par des amis dans des conditions déplorables et ne dispose d'aucun revenu.
À 2 reprises, il y a eu une assistante sociale qui est venue voir dans quelles conditions j'allais vivre. Donc c'était le 20 décembre 51, il faisait un froid mortel. Elle était en dessous de la caravane. Mon frère était enveloppé dans des chiffons, malade. Il est bien évident que quand l'assistante sociale a vu dans quel environnement j'allais vivre, elle a dit non, pas possibilité, je ne vous donne pas votre enfant, c'est pas possible. Et elle a fait 2 fois ça. Donc, ça veut dire qu'elle voulait me récupérer. Parce qu'on n'abandonne pas les enfants. Puis mon père, enfin une fille, il adorait les filles. Il y avait déjà Roger, mais il voulait enfin une fille. Enfin une fille. Donc lui n'était pas d'accord.
Examen de la situation d'une pupille susceptible d'être placée en vue d'adoption. La mère, une gitane qui vivait d'une façon lamentable dans une roulotte, était incapable de s'occuper de son enfant. Aussi l'envoi de celle-ci en agence fut décidé.
Et donc au bout de 5 mois, elle faisait des allers-retours, elle venait me voir et ça, elle me l'a dit. Elle m'a dit, j'ai mis le petit ruban bleu à la naissance, ça veut dire que j'étais sa fille.
Une enquête effectuée à la dernière adresse connue de la mère en juillet 1952 révéla que Véronique Kreutzer était partie avec un ami en Italie, sans autre précision. L'enfant, qui n'avait jamais été visité, fut immatriculé le 29 avril 1953.
La seule chose, c'est qu'on ne garde pas dans la pouponnière les enfants au-delà de 5 mois. Donc, ils ont dit, il faut la mettre en famille d'accueil. Et là, sans doute qu'elle n'a pas été prévenue. Moi, elle m'a toujours dit que du jour au lendemain, elle ne m'a plus. Et eux, de toute façon, sont partis très vite en Italie parce que mon père était recherché par la police. Donc, ils se sont sauvés. Mais en même temps, il est vrai qu'elle n'avait aucun moyen de me prévenir. D'abord, elle ne sait pas lire et écrire. C'est ça l'histoire de la lettre. Pourquoi elle ne m'a pas répondu? J'ai su après, c'est parce qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Alors donc, elle m'a perdu de vue, parce qu'ils m'ont emmenée dans cette famille d'accueil, mais elle ne savait pas comment faire pour me retrouver.
À partir du 24 mai, date à laquelle Rosa est confiée à une famille d'accueil dans le ressort de l'agence de Prémerie, la mère ne lui rend pas de visite et n'en demande aucune nouvelle.
Donc c'est comme ça que l'abandon s'est fait, parce qu'elle m'a perdue. Or, la loi est comme ça, et elle est encore comme ça. Si pendant 1 an, vous n'avez aucune manifestation de vos parents, bah vous êtes déclaré donc adoptable. Donc j'ai officiellement les papiers disant que en octobre 1953, de recueillie temporaire, je suis devenue adoptable.
Face à cette situation de total abandon, Rosa est inscrite en qualité de pupille de l'État dans la catégorie des enfants abandonnés, le 29 avril 1953. Le 1er septembre, le service de l'assistance à l'enfance de la Seine autorise le placement de Rosa chez Monsieur et Madame Barbel, qui souhaitent l'adopter. Le 24 octobre, Monsieur et Madame Barbel se rendent à l'agence de Prémerie, où Rosa leur est remise en vue de son adoption. Rosa étant parfaitement adaptée à sa nouvelle famille, qui l'entoure des meilleurs soins et de toute la tendresse dont peut avoir besoin un jeune enfant, et aucun membre de la famille naturelle n'ayant sollicité sa remise, le conseil de famille des pupilles donne son consentement à l'adoption de Rosa le 1er avril 1954. Remarque, il n'est pas indiqué sur la fiche si la pupille a le type gitan, ce qui serait vraisemblable.
On savait qu'on avait une sœur Mais voilà, on l'avait perdu de vue, comme on dit. Hein. Il nous a trouvé, c'est elle qui nous a trouvé. Hein. C'est elle qui a fait les démarches, tout ça. Et il nous a trouvé. Et un bon jour, il est venu nous voir, à Wattignies. Et pour nous, c'était une grande chose.
On était très, très contents qu'on l'a vu.
Riquino et Ballo, frère et neveu de Rosa.
Oh là là, on a vu une surprise comme ça. On n'a jamais vu une surprise comme ça. Waouh!
C'était très bien.
C'était très, très bien.
Et depuis le temps, il est avec nous, on la voit. C'est comme si on avait... Tout le temps, il est avec nous. Pendant 70, il a 72 ans bientôt. Il y a quelques années qu'il est avec nous. Pour nous, c'est comme si tout le temps, il était avec nous. C'est... Voilà. Nous, on l'a accepté comme notre sœur, la vraie sœur. Pas de problème, on était une famille nombreuse. Elle aussi, elle est comme nous, maintenant, avec nous.
Tout de suite, le contact, il a passé. Et c'était très, très, très bien. On était très contents. La famille, tout, c'était très content.
Parce qu'il a une grande famille. Des cousins, il y en a une centaine. Cousins germains, hein. Cousines, cousins, mais famille proche. Hein. Alors, tout le monde les a acceptés. On l'a reçu comme il faut. Comme notre sœur. Une gitane, directement, comme s'il avait vécu tout le temps avec nous. On ne l'a pas vu, mais on ne l'a pas oublié.
On ne va plus la laisser partir. Fini. Il faut qu'il reste avec nous.
Est-ce que vous l'imaginiez comme ça?
Pour dire la vérité, on ne savait pas exactement. On ne le savait pas. Mais quand on l'a vu la première fois, on a ressenti que c'est notre sœur. La peau, le système, on a tout de suite
le
compris.
Teint, la famille.
Ouais, ouais, non, le sang. Le sang appelle le sang. On le sent. Et depuis le temps, il y a une quinzaine d'années, c'est Rosin.
14.
Il y a 14 ans, depuis le temps, on la voit régulièrement. Il vient nous voir, nous, on va, c'est elle. Quand on part en voyage, il vient nous voir aussi dans les autres villes où qu'on est. Et souvent, il est avec nous.
Et moi, j'étais toujours avec elle.
Mozol, nièce de Rosa.
Mon papa, il m'envoyait avec elle à Lyon pour voir sa sœur. Après, il m'envoyait en Suisse pour voir sa famille. On a fait beaucoup de choses ensemble, comme on dit.
Vous la voyez très souvent?
Bah, très souvent.
C'est devenu une copine.
Je vous dis la vérité, à tout mon cœur. Pour moi, c'est un papa. Je la respecte bien, je l'aime bien. Quand il demande tout, je lui dis oui. Et pour moi, c'est un peu triste quand je pars. Il n'est plus avec moi.
Parce que vous prenez la route aussi?
Oui, oui, c'est ma famille qui part là. On part tout ensemble. Et quand je la quitte, ça fait un peu triste. Et pour elle aussi, c'est un peu triste. Quand on vient, c'est bien, et quand on part, ça va pas. C'est une tante, une copine, un père, tout.
Mozol ne quitte pas. D'abord, son père lui a dit « Elle ne fait rien sans toi », parce que lui, il était tout le temps parti. Il ne voulait pas que j'entre dans le milieu sans elle. Parce qu'il me dit « Tu vas être sollicité partout ». Donc, il m'a dit « Tu ne fais rien sans Mozol. Tu ne rentres pas dans la communauté, tu y vas progressivement, mais avec elle, tout le temps avec elle. » Parce qu'il dit « Moi, je vais être beaucoup avec toi, mais pas tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. » Il fait les parlements, c'était un peu l'avocat, quoi, le patriarche. C'est lui qui règle tous les problèmes internes de ce qui peut se passer quand ils font des malhonnêtetés, enfin des trucs comme ça. Son père était là, c'était un homme de loi, comme on dit, mais en interne. Donc, il me dit « Moi, je ne peux pas être tout le temps avec toi. Il va falloir que tu apprennes, voilà, les hommes, les femmes. »
Nous, les femmes, c'est habillement en robe. Avec des pantalons, ils sont pas le roi qui vient chez nous. Et normalement, une femme avec les pantalons, elle n'a pas le droit de revenir. Et pour Françoise, mon père, il a accepté. Ça, c'est une grande chose pour nous, qu'il a accepté ça. Voilà, nous, on vit comme ça, on est gitans, on mange tout ensemble. Mais chez nous, les femmes ne mangent pas avec les hommes. Mais elle, mon papa, il a dit, toujours faut la respecter et toujours avec les hommes, faut qu'ils mangent. Mon papa, c'était un grand homme. Son nom, c'était pas ça, c'était pas pour qui.
C'était le chef de la communauté.
Oui, des gitans, oui. Le papa de Françoise, lui aussi, c'était un homme comme mon papa à moi. C'était lui le grand chef de tous les gitans, des gens de voyage. C'est comme un avocat.
À table, ça se passe comme ça, c'est les hommes, d'abord, les principaux. Ceux qui entament les plats, ce sont les plus hiérarchiquement haut placés, et après, bah, c'est les autres.
Depuis 14 ans, on reste ensemble.
Riquino et Ballo.
Et toute notre vie, qu'est-ce qui nous reste à vivre? On restera ensemble.
Quand on l'a vu, on a pleuré, on a ri, c'était de joie.
C'était, fort, hein.
Voilà, c'était très fort.
Hein. Ma mère, comme il l'a vu, c'était quelque chose de grandiose. Hein. Et sa fille l'a vu 59 ans après, c'était quelque chose de fort. Hein. Et c'était très bien. Et nous, maintenant avec elle, on est très bien, on est comme si c'est vraiment la famille.
Et maintenant, quand il rentre chez nous, il peut rentrer quand il veut. C'est comme la famille, direct. Une famille complète, direct. On l'a eu comme la famille et maintenant on ne va plus la laisser.
Ta maman me parlait toujours qu'elle avait une fille.
Gougli, belle-sœur de Rosa.
Qu'elle n'a pas pu reprendre. Et elle avait du chagrin pour soi. Donc quand je l'ai vue, et j'ai compris la douleur de la maman.
C'est magnifique leur caravane.
La première fois que j'ai vu leur caravane, j'ai dit c'est pas possible.
On imagine des petites caravanes toutes malheureuses dans mes yeux, c'est grand luxe. Hein.
Ah maintenant, j'ai bien dit. Hein.
C'est grand luxe. Ils ont des caravanes. C'est vraiment, elle vous montre ça, c'est vraiment sa maison. Hein.
Oui.
C'est vraiment ce que tu as de plus précieux.
Oui.
Hein.
Bon.
Oui. Je prends une photo. Allez-y, on prend une photo avec
les enfants dans la caravane.
Oui. C'est là d'où tu vis dans les caravanes.
Doucement.
La douche,
ouais. Regarde les trucs, enfin, tout est recouvert.
Ouais. On a la douche,
c'est nickel, hein.
Ouais, ouais.
Et elles sont toutes comme ça, les trois.
Caravane, j'ai déjà tout.
C'est la tienne, celle-là?
Oui, c'est la mienne.
Là, c'est la tienne. Parce qu'il y a les enfants.
Allez, dis-le alors, quand je te
reprends. Ma belle-fille, elle a plus, plus, grand, plus grande.
Parce qu'elle a. Elle a celui-là, là. Elle en a plein.
Il a une petite caravane à côté pour les enfants. Il dort le soir.
Ah oui, dans une autre.
Oui, dans celle-là.
Les petits sont arrivés à un certain âge. Ils mettent les enfants vers 14-15 ans dans une autre caravane. Comme ça, bah, y a une question d'intimité. Donc les parents sont dans une caravane. Et, hein, vers 14-15 ans, ouais. Les garçons ne sont plus avec les parents. Voilà. Les filles restent plus longtemps, hein, quand
oui,
même. Bah, la tienne, elle est là. Gougli a sa fille qui n'est pas mariée. Et du coup, elle est tout le temps avec eux. Et elle n'a pas de petite caravane. Hein. Elle est avec ses parents. Mais les garçons, très vite, 14-15 ans, ils ont leur autonomie. Ah, ils ont leur autonomie.
Vas-y, comment je l'aime ma tante, dis, il ne faut pas avoir peur.
Comme un papa.
Voilà.
Progressivement, j'allais dans l'émission, j'ai réussi à me faire intégrer très facilement. Et puis, ils sont très orientés sur la religion évangéliste. Donc, on parle sans arrêt de Dieu et de Jésus, puisqu'ils ne croient pas en Marie. Ça se rapproche un peu de la religion protestante. Un bébé vient de naître, il faut remercier Dieu parce qu'il nous a fait de beaux enfants. Enfin, voilà. Donc leur mérite à eux disparaît au profit de Dieu et de Jésus. C'est Dieu et Dieu est présent en permanence. J'ai un frère pasteur et du coup, il prêche toute la journée. Quel que soit l'endroit où ils sont, il y a un chapiteau et ils se réunissent pour prier. J'ai assisté à ma première mission à Belfort, qui est une des plus grandes, elle était internationale. Et du coup, avec Philippe, on est allé là-bas et bon, c'est extraordinaire. Ils sont heureux. Puis les femmes crient, elles sont très imprégnées de la religion, tous. Mais c'est gay, ça danse, c'est très surprenant par rapport à nous, notre religion catholique. Bon, malheureusement, je ne comprends pas tout. Alors ça me gêne beaucoup, parce que je comprends pas ce qu'ils disent. Mais ils arrivent quand même à me mettre dans l'émotion. Je suis très sensible à leur chant, et j'en ai plein. Ça me met dans la condition spirituelle. Par mes parents adoptifs, je suis catholique. Donc j'ai été baptisée, confirmée, enfin tout ce qu'il faut, mariée à l'église. Mais je n'avais une différence de conception. Je ne croyais pas en Marie et tout ça. Déjà, j'avais mon idée. Et du coup, j'étais plus peut-être protestante. Je me rapprochais plus de cette religion. Bon, mais il faut savoir que je ne suis pas baptisée, évangéliste. J'ai pas envie. Et puis, j'ai envie d'être quand même fidèle à mes parents adoptifs. Pour eux, ça sera merveilleux de savoir qu'un jour je me baptise, parce que ça voudra dire que je suis pas seulement tzigane de naissance, mais aussi de conviction. Mais ça, pour le moment, je suis pas prête.
Avant, je participais aux réunions évangélistes parce que je trouve ça magique, magnifique. Quand mon oncle Manix y prêchait, j'y allais parce que alors ça, c'est un truc à voir. J'ai été honorée de participer à ça. Pourtant, je comprends pas la langue, mais alors. Ils ont une façon de vous embarquer dans le truc, là, c'est scotchant. Donc oui, j'y participais. Je n'y participe plus parce que je ne prends pas le temps. Mais c'est quelque chose à voir, ouais.
Bon, Pacha, pendant 2 ans, il essayait un peu de me transformer. Il voulait très rapidement que j'apprenne le romanès. C'est une langue impossible à apprendre, c'est une langue pas du tout écrite. Donc nous, on a un système d'apprentissage en France où il faut l'écrire. Alors il a commencé à m'apprendre des mots, des machins, bon d'accord. Il voulait me transformer un peu en gitane. Et puis un jour, il m'a dit, mon plus grand rêve, ce serait que, tu vois, j'ouvre ma caravane et puis que ma fenêtre touche la tienne. J'ai dit, non, ça rêve pas. On va rester chacun dans nos différences et il faut qu'on apprenne à vivre avec nos différences. C'est-à-dire, moi, tu me vois avec mes pantalons et mes bottes, c'est les hommes qui sont habillés comme ça. Et moi, je me mélange aux hommes. Donc ça, ça les choque un peu. Mais l'un dans l'autre, voilà, je suis à part entière gitane. De toute façon, je suis à 100% gitane. Alors, le souci, c'était un petit peu mes enfants qui, eux aussi, du coup, ont 50% de tzigane dans le sang. Et mes petits-enfants ont 25% aussi de sang tzigane. Ce que je voudrais transmettre à mes petites filles, c'est justement cette grande faculté d'accueil. Ils ont des belles valeurs. C'est certaines valeurs que j'aimerais qu'elles aient. Ils ont le sens de la famille extraordinaire, qui est presque une communauté. D'abord, on est clanique. Peut-être ce que j'aimerais moins, c'est plutôt cette prédominance masculine. Les femmes sont un petit peu considérées surtout pour faire des enfants, s'occuper de la maison. Elles n'ont pas vraiment la possibilité de sortir de ça. Donc peut-être que ça va évoluer. Elles évoluent beaucoup, les femmes. Hein. Maintenant, elles ont droit à la contraception, ce qu'elles n'avaient pas avant. Et donc transmettre voilà, tout ce qui est humain, j'aime beaucoup. Le côté affectif, oui. Voilà, ça s'arrêterait là. Mais la culture tzigane, j'aimerais qu'elle la connaisse. C'est tellement intéressant, c'est riche. Je voudrais qu'elle soit fière d'être tzigane, d'avoir leur grand-mère tzigane.
Mes enfants sont très impliqués là-dedans, alors surtout mon fils. Je me suis aperçue que pour lui, c'était extrêmement important, ses origines. Il dit à l'école qu'il est d'origine gitane, tout ça, parce que je sais que ses copains, il y en a certains qui l'appellent le petit gitan. Bah d'ailleurs, il est très très typé et tout. Et lui, je sais que d'appartenir à un clan comme ça, pour lui, c'est important. Et il me demande souvent de les voir. Et c'est vrai que je prends pas le temps. Au début, j'emmenais beaucoup mes enfants parce que je trouvais que c'était une richesse de mélanger ces cultures. Et mais après, très vite, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout comme nous et qu'ils n'éduquaient pas du tout les enfants comme nous. Les enfants, ils clopent, ils boivent de l'alcool, ils ont des relations sexuelles très jeunes, ils se marient entre eux. Et moi, très vite, je me suis dit, je suis pas en adéquation avec ce qu'ils font avec leurs enfants. J'ai mis une distance en fait avec mes enfants, alors qu'au début non. Au début je venais avec plein de jouets, d'ailleurs les enfants étaient émerveillés de voir des jouets parce qu'eux ils ne gardent rien, ne stockent rien, donc ils ont tout pour leurs enfants, mais en fait très vite ils les font devenir des adultes et nous on veut les garder petits très longtemps. Donc nous en fait on les protège de certaines choses, on n'est pas du tout dans le même registre. C'est sûr que c'est une communauté qui a été hyper maltraitée, hyper mal vue, mais parce que méconnue. Maintenant, ce que je déplore un petit peu, c'est qu'ils ne cherchent pas à sortir de ça et à évoluer. Je trouve ça dommage. Et puis, ils restent très claniques. Les femmes ont toujours le même rôle de femme et elles évolueront pas. Elles sont pas du tout indépendantes, elles bossent pas.
Alors, avec mes enfants, on n'en parle pas trop. Ils savent qu'ils existent. Dès qu'ils sont là, elles les voient.
Thomas.
Ils échangent très très bien avec eux aussi. Donc, c'est pas tabou. S'ils nous posent des questions, on leur répond. Quand j'ai les réponses, mais je décèle pas une problématique particulière, en tout cas, dès qu'on en parle, quoi.
Aujourd'hui, Françoise assume à 100% ses origines gitanes. À 72 ans, la petite enfant de Neuilly est devenue Rosa, une tzigane à part entière. Elle revendique cet héritage et savoure sa place retrouvée dans la fratrie Kreutzer. Chaque année, lorsque la communauté quitte le camp d'Annemasse en Savoie pour venir passer l'hiver à Lille, elle éprouve le même plaisir à les rejoindre dans la grande maison familiale. 3 mois pour renouer les liens et rattraper le temps perdu. Ses enfants sont plus partagés. Pour eux, l'héritage tzigane ne coule pas de source.
Au niveau identité,
Stéphanie.
Je suis contente d'avoir mis des visages sur la maman de maman. J'étais contente de la connaître, de voir qu'elle ressemblait à maman, du coup. Mais bon, en fait, j'ai jamais été vraiment troublée de tout ça. Quand maman m'a dit qu'elle avait été adoptée, bon, sur le coup, je me suis dit oui, bon, ok. Enfin, ça m'a pas chamboulée, ça m'a pas remis en question. C'était son histoire. Donc en fait, bah oui, je suis contente pour elle, parce que je sens que c'est très important pour elle. Moi, je trouve ça riche de mélanger toute cette culture et tout ça, mais moi, je me sens pas tzigane. Non, je me sens dans ma continuité de famille. Je sais que je suis à 50% tzigane, mais ma vie, elle est sédentaire. Maman, c'est son histoire à elle, c'est sa vie à elle. Voilà. Moi, mon histoire, c'est ma mère, mon père. Enfin, moi, j'ai mon histoire. Oui, c'est riche. C'est très bien qu'on les ait retrouvés. C'est très bien pour maman. Voilà, c'est une jolie histoire. Mais je ne ferai pas qu'un avec eux. Ça, c'est une évidence. Je les respecte. Moi, ma famille, c'est ma grand-mère qui est décédée. Enfin, c'est elle que j'ai connue. Bon, cette dame que j'ai vue un petit peu, oui, voilà, c'est la génitrice de ma mère, mais c'était pas ma grand-mère.
Physiquement, c'est ma famille.
Thibaut.
Mais c'est comme si c'était une famille éloignée. C'est un peu le même principe. On se voit de temps en temps, et puis on a quelques nouvelles, et puis voilà. Moi, c'est plus comme ça que je le vis. Le fait d'apprendre ça, moi, ça m'a pas posé de problème. Et, non, ça m'a pas changé. Ça n'a eu aucun impact.
Est-ce que vous avez l'impression d'être plus ouvert à d'autres cultures aujourd'hui ?
Oui, alors ça oui. Le regard que j'ai envers d'autres communautés ou même de manière plus large, envers l'homme au sens large, oui, ça a changé. Pour le coup, j'ai plus de tolérance et j'ai plus tendance à le dire aussi aux autres. Attention aux préjugés, attention aux premières impressions, attention aux réputations, attention à ce qu'on dit, attention à tout ça. Parce que voilà, ça peut être des choses qui sont un peu ancrées dans nos inconscients collectifs, mais qui sont pas forcément reflétées de la réalité.
Ça a jamais été pour moi une, on va dire, un fardeau. Je l'ai même plutôt pris comme étant un enrichissement.
Thomas.
D'un coup, on a cette nouveauté qui nous tombe dessus, et donc du coup, la soif de découvrir autre chose, de découvrir d'autres personnes. Donc pour moi, c'était hyper enrichissant, et du coup, ouais, ça s'est fait naturellement, en fait, et rapidement. Le but ultime de tout ça, c'est que ma mère soit heureuse, et qu'elle ait trouvé, entre guillemets, les réponses à ses questions. Et en tout cas, je le vois de l'extérieur, qu'elle est très épanouie avec eux, et qu'elle est, elle est très, très, très intégrée.
Au fil du temps, elle a développé une réelle attirance.
Philippe.
Alors après, il y a qu'elle qui peut dire jusqu'où ça va. Mais c'est un lien très puissant.
J'étais prête. Je m'étais préparée sans le savoir, je le pense ça. Préparée à tout ce qui allait m'arriver. Parfois, j'avoue que j'y pense et je me dis qu'un jour, si je me retrouve seule, il n'est pas impossible que j'aille de plus en plus vers eux. C'est-à-dire retrouver mon essence. Je ne vivrai jamais dans une caravane, je ne suis pas faite pour ça. Mais peut-être que je serai de plus en plus avec eux.
C'était Rosa, l'enfant perdu de la famille Kreutzer. Second épisode, retrouvailles en terre tzigane. Avec Françoise et Philippe Boitel, Stéphanie, Thibault et Thomas, leurs enfants, Rikino, Balo, Mosol et Gougli, parents de Rosa. Avec la voix de Lise Combe. Équipe technique, Hélène Langlois, Florent Bujon et Bruno Mourlan. Archivina, Pierre Pinault. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Florence Quille, réalisé par Laure-Hélène Planchet.